Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Au programme de l'actualité, cette semaine, nous parlerons comme d'habitude des jeux indépendants. Nous parlerons ensuite du cas d'Ubisoft, qui continue de se foutre de la gueule du monde avec ses DRM sur PC. D'ailleurs, je pense que tu seras d'accord avec moi, ATH, pour dire que ce sera un peu un de nos coups de gueule, n'est-ce pas ?
Un petit gros coup de gueule.
Ensuite, nous évoquerons Deus Ex et le mode New Vision. On évoquera ensuite Crytek, qui autorise un mode pour Time Splitters. Puis nous ferons une présentation de la Wii U. Eh oui, car ATH, mais tu as craqué ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas.
On en parlera lors de la présentation.
Ouais, ouais. Donc vous l'aurez compris, ATH qui faisait son sceptique là, genre ouais moi la Wii U tout ça, bah écoutez, il en a acheté une.
Oui, bah on aura les révélations pour, du pourquoi du comment.
Voilà. Ensuite, on évoquera le coup dans Assassin's Creed, Mario 3D officiellement annoncé sur Wii U, une annonce très très attendue je pense par les fans, quelques chiffres, des dates et enfin notre jeu du moment, Hitman Absolution. Comment ça va, mon petit ATH ?
Bah écoute, ça va très très bien. Donc je vais te répondre pourquoi j'ai eu la Wii U maintenant et on va pas attendre la présentation. C'est parce que bah quand j'ai regardé ma fiche de paye, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'argent que prévu. Et donc je dis waouh, qu'est-ce que je pourrais acheter avec tout ce fric ? Et bah une Wii U. Le jour du lancement, j'ai dit bon allez hop, c'est pas grave. J'ai dit que voilà quoi, c'était les jeux tout ça, mais je m'attendais vraiment pas à une paye comme ça, donc j'ai craqué, je l'avoue, j'ai craqué, voilà.
Tu n'es qu'un faible consommateur.
c'est ça.
Je précise au passage, avant de commencer, de rentrer dans le gros de l'actualité, nous avons entendu, comme bien d'entre vous, l'histoire du Doritos Gate, n'est-ce pas ? Seulement, nous, on aimerait bien parler de cette histoire en gros communauté, quoi, on va dire, en au moins 3 ou 4 personnes. Donc, on sait pas quand on en parlera, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va en parler. Parce que bon, tout ce qui touche la presse, nous, ça nous intéresse. Hein, même si on n'est pas des professionnels, etc., on trouve ça intéressant de parler de la presse française, n'est-ce pas ? Dans tous les cas, donc, on finira pas en parler. Le souci, c'est que bon, on a quelques petits soucis personnels, là, en ce moment. Avec les fêtes de fin d'année, les gens qui travaillent, tout ça. Là, vous le voyez, aujourd'hui, qu'on n'est que deux, alors que d'habitude, on est au moins trois. Donc bon, on finira par en parler, peut-être pas en décembre, peut-être début janvier, ça dépendra des disponibilités de chacun.
Un jour viendra.
Voilà. bon, allez, c'est parti, et on va commencer comme d'habitude par les indés, avec Steeler. Alors, Steeler, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vous incite fortement à aller voir ce trailer qui a été dévoilé en début de semaine, si vous êtes un fan de Flashback. Jetez-vous dessus parce que je pense que ça va vous faire remonter plein de souvenirs et vous allez avoir des étoiles plein la tête. Il y a vraiment une patte Flashback dans ce trailer. En gros, c'est un jeu de plateforme exploration énormément axé sur l'ambiance en fait. C'est une ambiance cyberpunk au niveau de la direction artistique. Il y a vraiment quelque chose d'assez particulier qui rappelle aussi bien dans les musiques que dans le visuel qui rappelle Flashback.
Surtout pour les musiques, tu sais, pour les premières notes. J'ai entendu les premières notes, ça m'a fait penser direct à Flashback. Après, quand la musique a duré un peu plus, j'ai trouvé que ça se distinguait un peu plus. Mais c'est vrai que le début de la musique, ça fait clairement Flashback. Le design et tout ça du jeu et tout, c'est une grosse inspiration. Là, de toute façon, le mec s'il dit que j'ai pas voulu m'inspirer de Flashback, c'est un gros menteur, quoi, mais bon.
Ah non, mais ils reconnaissent très clairement que Flashback est l'une de leurs inspirations.
Et tu parlais des étoiles plein les yeux, j'ai envie de dire, si vous regardez le trailer, prenez des lunettes de soleil parce que ça flash.
Ouais, d'ailleurs, si vous êtes des problèmes d'épilepsie, surtout ne regardez pas ce trailer, hein, parce que vous allez faire une crise directe.
Voilà. Quoi.
En tout cas, donc nous, c'est un jeu qu'on va suivre, en attendant d'en voir plus, en tout cas, sur le gameplay, et c'est prometteur. Voilà. Ensuite, on va évoquer un projet Kickstarter qui s'appelle Telepath Tactics. Alors, en gros, c'est un croisement entre Fire Emblem et Disgaea. Je pense que là, j'ai intéressé beaucoup de fans de Tactical RPG, n'est-ce pas ? Bon, alors, je vous cache pas que graphiquement, c'est pas terrible. Apparemment, c'est un univers steampunk où il n'y a pas de magie, en fait. Bref, ils ont comme objectif 25 500 $. Pour le moment, ils sont à 5 144 $. Quelque chose à dire à TH?
Bah non, rien de plus à ajouter par rapport à ce que t'as dit, hein. Si peut-être que je devrais peut-être mon petit avis négatif dessus, c'est que je trouvais ça quand même assez laid, hein.
Ah oui, non, mais c'est carrément pas pour la beauté que vous allez...
Voilà. J'attendais pas à avoir un truc en 2D vraiment très shadé, quoi.
Allez, maintenant on va attaquer le premier sujet qui fâche, n'est-ce pas? On va parler d'Ubisoft et on va parler de Far Cry 3 sur PC. Alors, je sais pas si certains d'entre vous ont eu le bonheur d'acheter Far Cry 3 sur PC et de tester ce magnifique DRM qu'est Uplay, mais il y a eu quand même quelques soucis, quoi. Alors, bon, pour ceux d'entre vous qui ont un peu suivi l'actualité des DRM chez Ubisoft, vous savez que quand même Ubisoft a laissé tomber sa politique de connexion toujours en ligne. Il y a toujours un DRM, mais cette fois, il y a besoin de ne se connecter qu'une fois. Le problème, c'est que, ben, entre autres, je vous incite à aller voir l'article de cet excellent site qu'est Rompaper Shotgun. Je ne ferai jamais assez le VRP pour ce très bon site, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aller voir partout sur le net, hein, il y a eu plein de réactions par rapport à ça. Le problème, c'est que même ce DRM-là, donc de connexion unique, il pose des soucis. Alors, ATH, je t'ai montré deux trois choses, n'est-ce pas?
Il était assez marrant, j'ai envie de dire, enfin marrant pour moi, mais pas pour le testeur.
Genre, le mec qui essaie de lancer son jeu et quand il est dans le jeu, et ben, en gros, y a rien qui s'affiche à l'écran. Par exemple, il y a juste, en gros, les bâtiments s'affichent pas, ou il y a la collision qui marche pas. Enfin, bref, ce genre de
Il y avait
choses,
de la
quoi.
verdure qui apparaissait un petit peu à droite à gauche, et est-ce que t'avais juste la carte et un fond noir.
Donc voilà. En gros, vous l'aurez compris, le DRM actuel d'Ubisoft continue de poser des emmerdes aux utilisateurs. Et pourquoi? Parce que les serveurs d'Ubisoft étaient surchargés le jour du lancement, et du coup, ça a foutu la merde, tout simplement. On espérait que, au moins, l'absence de connexion permanente, il n'y ait plus de soucis avec le DRM d'Ubisoft. Le fait est qu'il y a toujours un problème. Alors moi, je vais me répéter, encore une fois, mais je trouve scandaleux que des gens qui ont payé pour leur jeu ne puissent pas jouer à leur jeu dans des conditions correctes. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle une condition correcte, normale, c'est, il y a l'icône sur mon bureau, je clique, je lance et je joue à mon jeu et il n'y a aucun souci. Merde, quoi. Enfin, je pense pas que ce soit trop demandé, quoi. On a payé pour le jeu, je ne trouve pas normal que les mecs qui ne payent pas, que les mecs qui piratent, aient moins d'emmerde que les mecs qui payent, quoi. Ce n'est pas normal. À un moment donné, faut arrêter le
Et
délire,
après, on
quoi.
se plaint du téléchargement sur PC, quoi.
Voilà. Donc ça, c'était mon coup de gueule, parce que j'en ai juste ras-le-bol des DRM d'Ubisoft. À un moment donné, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, parce que ce n'est pas acceptable. Voilà.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si on passait maintenant à Crytek, qui donne en fait de meilleures nouvelles aux gamers, j'ai envie de dire, Crytek t'autorise la création d'un mode Time Splitters. En fait, c'est à la base Time Splitters Cast, il a été annulé sur cette génération, en fait, j'ai envie de dire tué dans l'œuf plutôt. Donc le directeur de Crytek a proposé, parce que c'est eux qui ont récupéré la propriété intellectuelle, de faire une pétition. Si elle atteignait plus de 300 000 votes, et bah ils auraient le droit de faire un Time Splitters en fait en HD, une collection des trois premiers volets sortis. Et ils ont donné l'autorisation de créer un mode sous le CryEngine afin de recréer la série dans un moteur moderne. Mais le studio va encore plus loin parce qu'il va fournir des éléments originaux pour continuer à développer sans toucher un rond.
C'est vraiment un beau geste de Crytek. Il faut le féliciter. Et moi, je suis d'autant plus ravi que voilà, c'est un geste envers la communauté du modding. Et pour moi, le modding, ça fait vraiment partie de l'esprit du jeu sur PC. C'est génial parce que ça permet de faire revivre tes licences comme ça. Bon, alors après, le projet n'est pas complété, hein, et à mon avis, il va falloir du temps avant que ça arrive jusqu'au bout. Mais c'est grâce à ça que tu vois des licences. Ou des jeux revivre, par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a eu Black Mesa qui est sorti il y a pas si longtemps, qui refait Half-Life 1 à 9, tu vois.
Voilà.
Le modding apporte quelque chose, je pense, au jeu PC. Voilà. Toujours dans le modding, on va parler de Deus Ex. Bon, Deus Ex, c'est génial, hein, mais quand même, c'est un jeu des années 2000, quoi. Les textures, quand même, elles ont un peu mal vieilli. Le truc, C'est qu'il y a un mec, ça fait 5 ans qu'il bossait sur un mode de Deus Ex. Ce mode s'appelait New Vision. Et ce mec s'appelle David Watts. Et donc ça faisait 5 ans, tu vois, qu'il bossait sur un projet qui consistait en gros à changer toutes les textures du jeu pour les mettre en HD, les retravailler, etc. Et donc là, ça y est, cette semaine, donc le mode a été terminé. Et donc, il est disponible sur le site ModDB. Si vous vouliez redécouvrir Deus Ex, mais que vous aviez vraiment un souci avec les textures du jeu, je vous conseille de foncer dessus, parce que ça donne vraiment un coup de jeune au jeu, quoi.
Bah, on a envie de tester ce mode-là. Surtout que moi, le premier Deus Ex, je l'ai pas fait. J'ai entendu que du bien de ce jeu-là. Je pense que pour mon PC actuel, il devrait le faire tourner normalement. on va essayer ça pour voir si ce que ça donne. Et en plus, ça, c'est un jeu que j'ai toujours voulu faire. Parce que moi, j'ai joué que à Human Revolution.
Par contre, je précise que ce mode malheureusement ne change pas les modèles des personnages. C'est toujours les anciens modèles. Pour ça, il y a un autre mode qui est en développement depuis à peu près la même période, qui s'appelle HDTP, qui change pour le coup tous les modèles des personnages. Alors le truc, c'est que ça fait un sacré moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles de ce mode, mais on a eu récemment sur le forum donc de l'équipe derrière ce mode, on a eu des nouvelles et il paraît qu'ils sont dans les phases finales de test et que ça sera bientôt disponible aussi. Donc vous en faites pas, dès que ce mode-là sera dispo, j'en parlerai aussi, ça c'est clair, net et précis. Et du coup, là, on aura vraiment un Deus Ex entièrement refait à neuf. Au passage, si vous voulez voir un peu comment ça a évolué, bah, déjà il y a des vidéos dispo sur le net et même sur le site de ModDB. En fait, il y a des screenshots comparatifs. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Bon, ensuite, nous allons ben, parler de la Wii U maintenant, parce que vous l'aurez compris, ATH a été faible. Donc, écoute, peux-tu nous donner un peu tes impressions sur la Wii U? Mais avant de te demander tes impressions, déjà, je voudrais te demander quel pack tu as acheté. Est-ce que tu as acheté le pack pas cher, mais qui est un peu une grosse arnaque, où t'as 3 gigas de mémoire, ou est-ce que tu as acheté le pack un peu plus cher?
Comme j'ai eu pas mal de flouze quoi, j'ai acheté le pack Zombie U. Enfin, j'avais pas mal de flouze, mais maintenant j'en ai plus parce que j'ai tout claqué quoi. En une journée, bravo. J'ai acheté le pack Zombie U avec la manette Pro Controller, le gamepad, le câble HDMI, le truc pour jouer avec sa Wiimote, etc. J'ai aussi en cachette le jeu Nintendo Land, mais bon, ça vous n'êtes pas censé le savoir normalement.
Il paraît qu'il est très bien, hein,
Non, mais c'est un petit cadeau que j'ai eu, on va dire, non officiel. Maintenant, ce que je peux dire de la console, c'est que elle est toute petite, je la trouve assez jolie. Le seul problème, c'est que voilà, en noir, à peine je l'ai touché, j'ai mis ma trace de doigt, je l'ai pas touché, je me réveille le lendemain et il y a toujours sur ma foutue trace de pouce qui est dessus encore. Le gamepad, je m'attendais à un truc un peu lourd, etc. Finalement, il est léger.
Ah, je te l'avais dit, hein, c'est vraiment léger. On dirait pas comme ça, à première vue, mais c'est
Ouais, c'est
léger, quoi.
vrai. Et on a un stylet, donc comme sur une Nintendo DS, que je vais utiliser pour pas trop gâcher mon écran.
Le gamepad, il est aussi en noir dans ton pack?
Oui, il est en noir. Avec le cercle, le truc pour le poser dessus, pour le recharger.
Et il garde aussi les traces de doigts, le gamepad, ou c'est une autre matière?
Pas la même matière que la console, hein. La console, on dirait vraiment un plastique brillant, quoi. Alors que le gamepad, tu pourras mettre tes mains, mais ça laisse pas de marque, quoi. C'est pas la même matière du tout, en fait.
L'écran, il garde les traces aussi, ou ça va pour le moment, c'est pas...
J'ai pas fait attention à ça, mais je pense pas trop que, vu que j'ai utilisé plus ce stylet, quoi, ça va.
Je pense que c'est un peu pour ça qu'ils l'ont mis aussi en vert,
Voilà,
parce que du coup...
et surtout que, bah, pour viser des points précis. Parce que des fois, c'est un peu chiant, quoi. À part, hier, parce que j'ai essayé Zombie U, quand je jouais à Zombie U, je jouais pas avec mon stylet, quoi. J'utilisais mes doigts dessus pour changer d'arme et tout ça, parce que dans le feu de l'action, le temps de sortir ton stylet, tout ça, déjà que le personnage, il est lent, tu te fais bouffer direct, quoi. C'est un peu chiant pour ce jeu-là, mais sinon je trouve la console vraiment bien. Par contre, le petit bémol, c'est la mise à jour déjà. Ça m'a mis à peu près entre 2-3 heures.
En gros, c'est la même que le PlayStation Network. Ça met trois plombes.
Satoru Iwata nous a dit il y a longtemps que on est désolé de ne pas avoir pu inclure ça dans la Wii U, mais on était un petit peu pressé, etc. Bah dans ce cas-là, je sais pas, décale ta sortie de la Wii U d'une semaine ou je sais pas, enfin, pour m'éviter de perdre 2 heures et demie à me faire chier. Heureusement que j'avais ma PS3, ma Xbox 360, j'ai pu jouer à Far Cry 3 pendant que ça chargeait. Les applications, je suis allé voir un petit peu tout, YouTube, le Miiverse, etc. Alors YouTube, c'est assez lent pour charger une vidéo quand même, hein. C'est pas très optimal. Le Miiverse, ça ressemble en fait à un forum géant dédié à l'univers de Nintendo et aux jeux éditeurs tiers qui sont dessus. Par exemple, j'ai vu, il y avait du Assassin's Creed, du Mass Effect 3, etc.
Au niveau de l'ergonomie de l'interface, ça te paraît intéressant ou enfin c'est bien fait
L'interface du Miiverse, elle est super bien faite. Tu switches entre ta télé et ton gamepad, en fait. Tu peux choisir ce que tu veux sur ton gamepad et sur ta télé. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de dire, c'est que la Wii est émulée sur la Wii U, en fait. Donc, vous passez par un menu. Et déjà, il y a un temps de chargement assez long, je trouve. Il doit être corrigé, normalement. Parce que les temps de chargement, quand même, sont... Quand tu changes d'une application à une autre, c'est un petit peu... Tu perds une minute, quand même, hein.
Ah oui, non, mais 1 minute, moi ça me rendrait dingue, personnellement, mais
Voilà, donc normalement il devrait avoir une mise à jour qui devrait encore corriger tout ça, j'espère qu'elle sera pas aussi longue. Mais sinon, franchement, je suis plutôt satisfait la qualité du gamepad, quoi.
Juste une question, est-ce que tu as pu tester le fait de jouer sur le gamepad dans une autre pièce, par exemple?
Ça part pas très loin, hein. Je suis dans une pièce qui est assez petite. Je suis parti, je sais pas, franchement, à 5 mètres avec des murs, tu vois. Et là, la connexion s'est coupée direct. Je sais pas quelle est la technologie utilisée. Mais en tout cas, c'est pas, la portée est pas très grande.
Moi, je trouve ça problématique parce que c'est quand même une des features qui a été vendue avec la Wii U, tu vois. Et franchement, si je peux pas aller dans une autre pièce pour jouer tranquillement dans ton pieu, par exemple, c'est chaud, quoi.
Bah, si tu veux faire ça, il faut que tu prennes la Wii U et que tu la branches à côté de toi, quoi, en fait.
Ouais, c'est pas terrible, hein.
Voilà, c'est un peu nul, hein, ce côté-là. Mais bon, de toute façon, vu que j'ai joué à Zombie U, je peux pas jouer que sur le gamepad, quoi. Je suis obligé d'avoir la télé, d'avoir le système de gameplay asymétrique. Pour l'instant, ça me dérange pas, mais par exemple, si j'ai envie de jouer à, je sais pas moi, un prochain jeu qui va sortir sur la console, où je pourrais jouer sur le gamepad directement, ça va me faire un petit peu chier. Heureusement que mon lit est pas loin de la Wii U, donc normalement ça devrait passer. Je comprends pour ceux qui ont des familles nombreuses surtout, obligé de mettre un casque pour jouer sur la Wii U, pendant qu'il y aura tes frères, tes sœurs, papa, maman, à droite, à gauche, qui vont crier, courir, ça va te déranger un petit peu peut-être.
Bon, écoute, on attendra que tu finisses de jouer à Zombie U et on en
Voilà.
reparlera. D'ailleurs, il y a quelque chose qui devrait peut-être t'intéresser, c'est un Mario 3D qui a été officiellement annoncé sur Wii U. Donc, ma foi, ça va enfin changer des New Super Mario Bros. Qu'on bouffe à chaque fois avec Nintendo.
Franchement, j'attends de voir déjà la gueule que va nous donner un Mario en 3D HD. Parce qu'on a eu le New Super Mario Bros. Que voilà quoi, j'ai pas envie d'y jouer. Maintenant, après Mario 64. Et je pense que je pourrais pas revivre la même expérience que j'ai eue à l'époque de Mario, donc
Tu es encore un de ces adeptes de Mario 64 qui pensent qu'on n'a jamais rien fait de mieux depuis, c'est
voilà.
ça? D'accord. Bon, vous êtes prévenus, hein, à moins que Nintendo fasse un jeu du niveau de Mario 64, il va se faire casser par un
Non, c'est pas ça.
TH.
Les Mario Galaxy 1 et 2, ils étaient pas mal. Mais franchement, Mario à chaque fois c'était un truc vraiment voilà, léché aux petits oignons. Et ce que j'ai peur avec ce Mario, c'est que maintenant, Nintendo, ils savent que les Wii U sont tous connectés, etc. Et Nintendo nous aura habitués à sortir de plus en plus de jeux moins finis qu'avant. On a eu par exemple l'exemple avec Zelda Skyward Sword où il y a eu un bug. Maintenant, est-ce qu'un Mario 3D, il sera toujours aussi bon que les anciens Mario qui étaient finis au poil, ou bien ils vont pas se précipiter pour sortir les jeux en disant, on va mettre une mise à jour?
Ok. Ensuite, du coup, dans le prochain Assassin's Creed, ma foi, c'est très intéressant. Ubisoft qui a quand même pas mal innové, on peut dire ce qu'on veut de la boîte, mais au niveau des jeux, je trouve notamment du multi sur Assassin's Creed, je pense qu'ils ont eu pas mal d'idées. Alors, toi qui es fan de la licence ATH, est-ce qu'un mode coopératif dans Assassin's Creed, ça te fait de l'œil?
Pourquoi on parle déjà du mode coop dans Assassin's Creed? C'est parce que Ubisoft a réalisé un sondage, et dans ce sondage, on posait en fait plusieurs questions. Déjà, j'aimerais bien revenir sur ces questions, si tu me permets, mon cher Tyran. Si le jeu devrait sortir l'année prochaine, dans quelle mesure l'achèteriez-vous?
Ah non, mais ils vont pas nous refaire le coup, là, c'est pas possible. Ils vont pas nous refaire le coup d'un Assassin's Creed tous les ans, enfin, à un moment, faut arrêter, quoi.
Voilà, moi, ça me fait un petit peu peur. Moi, déjà, si le jeu devrait sortir l'année prochaine, dans quelle mesure l'achèteriez-vous? Ben, j'ai envie de dire, vu que je connais la fin de la trilogie, si tu me sors un nouveau jeu l'année prochaine, il a vraiment être bon parce
Mais
que
parce que Assassin's Creed 3 apporte vraiment une conclusion ou
il apporte une conclusion. Il se passe quelque chose à la fin. Si la série, c'est pour nous faire un truc chaque année, franchement, un jeu tous les ans, ça commence à me saouler. Après, donc, sur une échelle de 1 à 10, Comment noteriez-vous votre expérience globale avec le jeu Uncharted 3? Un jeu qui n'est pas développé donc par Ubisoft.
Le rapport avec la choucroute, déjà, j'en fais demander, mais...
Je pense que, parce que Uncharted 3, il propose de la coopération dans ses modes multijoueurs, etc. Et dans la liste suivante, quelle feature aimeriez-vous voir dans le prochain Assassin's Creed? La possibilité de me rejoindre afin de m'aider à tout moment dans le solo. Déjà que l'aspect infiltration dans Assassin's Creed, il a pas été, il a jamais été vraiment fort. Avec un ami, deux personnes qui se baladent sur le toit, qui font des assassinats, qui enchaînent les gens comme des bouchers. J'ai envie de dire, moi, je sais pas comment ça pourrait être implémenté, ça pourrait être sympa, vu ce qu'ils ont fait les possibilités avec le multijoueur depuis Brotherhood. Mais pour l'instant, ça me fait un peu peur cette feature, quoi. Dans le mode solo un ami te rejoint, c'est-à-dire qu'il sera obligé de te suivre, etc. Comment ça va se passer? Et moi, ce que j'aimais, et le truc que j'aimais bien vraiment c'était dans le premier Assassin, c'était que tu devrais préparer tes missions pour faire des assassinats, donc enquêter, etc. Et là, tu pouvais vraiment avoir un truc, j'ai envie de dire, assez, c'était un peu à la manière d'un Hitman, quoi. Tu préparais vraiment ton truc.
C'est assez différent quand même.
C'est très différent, mais tu vois, c'est juste pour en fait l'aspect préparation, quoi, j'ai envie de dire. Depuis l'épisode 2, ça s'est perdu un petit peu. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à ces sources-là, que préparation et de tactique, quoi.
Bon, ensuite, GTA, vendu à 125 millions d'exemplaires depuis le début de la licence. Moi, je vous avoue, j'ai pas voulu mettre cette news parce que j'avais pas grand-chose à dire dessus parce que on savait que GTA ça se vendait bien. Alors, ATH, il paraît que tu avais quelque chose à dire dessus. Alors, je suis tout de suite.
Ce qui est assez intéressant déjà, c'est qu'en 2011, la série s'était vendue à 114 millions d'exemplaires et elle a encore engrangé 11 millions de ventes en une année. De 2011 à 2012, 11 millions de GTA qui ont été vendus dans le monde, hein.
Ouais, alors qu'il n'y a pas eu de nouveaux jeux, voilà quoi, c'est...
Donc Strauss Zelnick estime d'ailleurs que c'est précisément la rareté des épisodes de GTA qui permet d'atteindre ces chiffres de vente. Lui ne croit pas donc aux sorties annuelles des jeux pour à chaque fois faire des ventes, des ventes, des ventes. Un jeu, plus il est bon, plus il est rare, plus il se vendra sur le très long terme, et que si il devait qualifier un jeu, par exemple, concurrent, qui est Call of Duty Black Ops 2, il dit juste assez gentiment, l'approche est assez différente de la nôtre.
Bon, on va passer aux dates. La Wii annoncée pour le 7 décembre au Canada, la Wii Mini, je précise, parce que sinon ils vont pas comprendre pourquoi on parle des Canadiens, nos auditeurs. Oui, parce que en fait, oui, il y a eu cette annonce assez bizarre de Nintendo, pas une sortie d'une console. Oh bah tiens, en fait, on a un truc, ça s'appelle la Wii Mini et on va la sortir bientôt. D'accord.
Bah, sera un peu moins cher que la Wii normale.
Elle sera un peu moins chère, t'es
Oui,
sûr?
mais parce qu'en fait, ils vont enlever la rétrocompatibilité des jeux GameCube. Surtout, il n'y aura pas de online.
D'accord, donc elle sert à rien quoi.
Déjà que le online sur Nintendo, il n'est pas super intéressant. Sur la Wii, en tout cas. Mais bon, quand même, si t'as envie de jouer à Mario Kart, etc., c'est toujours intéressant de l'avoir. Voilà, là, si tu l'as pas, ça enlève un peu l'intérêt du truc, mais bon. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de bien dessus? C'est que je trouve le design, il est vraiment très très charmant.
Super, ça fait une belle jambe. Dynasty Warriors 7 Empire le 21 février. Pas rien à dire dessus, ATH. C'est, t'as mis la news comme ça.
C'est juste une date de sortie.
Donc, c'est tout pour les dates cette semaine. On va enchaîner sur notre jeu du moment. Et le jeu du moment, je vous en ai parlé durant mes pérégrinations du Paris Games Week, c'est bien entendu Hitman Absolution.
Thank you.
ATH. Je pense qu'on va aborder ce test en complément de la preview que j'avais faite durant le Paris Games Week. Déjà, moi, le truc, c'est que durant donc la Paris Games Week, j'avais bien dit que moi, en tout cas, de ce que j'avais vu, d'une part, les niveaux étaient jouables de deux manières, c'est-à-dire que tu pouvais y aller à la bourrin et que tu pouvais y aller aussi en mode subtil. Et d'autre part, je n'avais pas vu de niveau ouvert comme on avait pu voir dans certains trailers, etc. Donc j'aurais envie de te demander, d'une part, est-ce que vraiment tous les niveaux sont jouables de manière discrète? Et d'autre part, est-ce que il y a vraiment des niveaux très très ouverts avec plein de monde comme on en a vu dans les trailers?
Tu peux jouer tous les jeux en infiltration en tuant que ta cible par niveau? La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est oui, il y a des niveaux où il y a beaucoup de foule, tu peux te cacher dedans, etc. Ils sont assez ouverts, t'as plusieurs possibilités d'assassinat, etc. Mais par contre, t'as des niveaux beaucoup plus linéaires aussi, entre temps. Par exemple, je prends un niveau qui est au début du jeu, dans un hôpital, on va dire, et tu dois récupérer des fusibles. Dans ce niveau-là, t'as pas d'assassinat à faire. Donc, ça n'a plus rien à voir avec les missions qu'on avait avant dans les anciens Hitman, où c'était vraiment calibré que sur des missions.
Mais, est-ce que c'est intéressant, ou est-ce que toi, ça t'a frustré, est-ce que tu as trouvé que ça n'avait rien à faire là, en fait?
C'est un petit peu naze, quand même, super le truc, quoi, va récupérer des fusibles pour aller réparer un ascenseur. Après, t'as toujours les assassinats à faire, ils sont plus sous forme de contrat. Maintenant, il faudra plus éliminer une cible par rapport au scénario, parce que maintenant, j'en ai pas parlé, mais c'est un truc de plus personnel, en fait.
Ouais, d'ailleurs, j'ai entendu des trucs, il paraît que c'est plus personnel, mais qu'en fait, c'est tellement mal raconté que ça fait un peu série Z, donc...
Les protagonistes et les antagonistes de Hitman, ils sont vraiment bien travaillés, quand même. Hein. Après, le scénario en lui-même, c'est pas un scénario qui va voler très haut, quoi. C'est un truc vraiment... C'est un truc blockbuster hollywoodien, sans originalité vraiment dedans.
Donc on a compris que 47 est toujours aussi peu intéressant a priori, même s'ils ont essayé de faire quelque chose, mais c'est pas le point fort du jeu, mais à la limite on s'en fout. Moi une autre critique que j'ai entendue sur le web, c'est que notamment de la part de ceux qui ont apprécié Blood Money, j'ai lu des choses comme quoi par exemple ils avaient pas retrouvé des niveaux comme par exemple le niveau de l'opéra dans Blood Money, qui avait moins de possibilités, ils avaient l'air assez déçus, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Le niveau de l'opéra, vraiment, ça va être dur de faire mieux que ce niveau-là, quand même, hein, parce que dans Blood Money, c'est vraiment le top. Hein. Mais par contre, voilà, dans ce Hitman-là, il y a quand même beaucoup de possibilités pour assassiner des ennemis. Il y en a certains qui sont un peu... Enfin, ils ont dit qu'il y avait vraiment, 25 manières d'utiliser ces ennemis, alors que c'est faux. Il y a peut-être 25 manières, mais donc... La plupart sont des variantes d'une même manière d'abattre un ennemi. Après, donc, voilà, le jeu en lui-même, moi, j'ai trouvé bon, quand même. J'ai toujours infiltration, il y a toujours l'esprit de Hitman.
Ça n'a pas été dénaturé, mais ça faisait quand même très Splinter Cell, cet épisode, par moment.
Là, maintenant, c'est vrai que c'est assez Splinter Cellisé. Hein. Hitman, maintenant, en fait, il s'accroupit, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Il passe de cachette en cachette, alors qu'avant, tu te baladais dans un niveau, en général, tu trouvais le bon costume, sans te faire repérer par les gardes et tout ça, de laisser de traces. Je vois beaucoup de gens aussi qui ont gueulé la joueuse d'instinct et tout ça, qui permet de voir derrière les murs et tout. Cette joueuse d'instinct, j'ai envie de dire que par rapport à Blood Money, ça remplace en fait la map qu'on avait. On avait une map, mais on voyait les personnages qui bougeaient.
Ouais, mais je voudrais me faire l'avocat du diable, mais le truc c'est qu'une map, t'es obligé de t'arrêter, faut regarder, pensant là tu vois pas ce qui se passe autour de toi. C'est pas pareil que d'être en mode à la troisième personne et de voir derrière un mur, quoi. C'était beaucoup plus réactif avec un système comme ça.
Mais avant aussi, finalement, on l'avait. Pour moi, c'est une vision un peu plus moderne. Bien sûr, moi, quand j'ai joué, j'ai enlevé la vision à travers les murs, ce qui fait que le jeu est beaucoup plus difficile. Hein. Donc, c'est à dire que moi, ma vision d'instinct me servait juste à que quand je passe devant un garde, Hitman mettait sa main pour se cacher, en fait, pour pas se faire reconnaître. Parce que maintenant, dans ce jeu-là, quand tu prends un costume de flic, un policier te reconnaît, en fait.
Ouais, c'est ce que j'avais évoqué durant Paris Games Week. Oh, je mets ma main, tu me reconnais pas. Oh, non.
De mettre sa main comme ça fait totalement artificiel. Surtout que même des fois, t'as un costume de flic avec un casque intégral, le mec te reconnaît.
Ouais, normalement, il est pas supposé te reconnaître. Est-ce que ça sort pas un peu du jeu, justement, quoi?
Voilà, justement, c'est ce genre de choses, ça sort un peu du jeu. Du même que des fois, t'es habillé comme ça avec un flic, t'es habillé en flic et tout, t'as un chapeau sur la tête, et t'es au moins à 20 mètres du mec, il est à l'autre bout de la map, mais le mec il regarde dans ta direction, Et ben, il commence à te détecter. Je suis habillé en pompier et je vois un mec qui est habillé en pompier de l'autre côté de la rue. Je dis, mais attends, mais lui, c'est pas mon collègue et tout. Mais de l'autre côté de la rue, je commence à le repérer. Vraiment abusé. Donc, ça fait que dans les niveaux de difficulté que tu montes, des fois, je te jure, il y a certains passages qui sont chauds.
Mais ils sont chauds, pas parce que fondamentalement le jeu est bien pensé et que t'as fait une connerie. Ils sont chauds parce que les gars ont une vision d'aigle et qui te repèrent à l'au bout de la rue, quoi.
Ah, c'est comme si toi, tu voilà, tu il y a un mec comme ça qui vient et il te repère, mais le mec il est vachement loin. Il dit, mais attends, mais je le connais pas lui, tout ça. Waouh, doucement. C'est comme ça m'est arrivé aussi. Au bout d'un moment, je suis habillé avec un truc. Tu sais, les espèces de trucs que tu mets pour des trucs de décontamination dans les usines. T'es habillé donc avec un casque et tout ça, t'es habillé tout dans un costume tout en jaune, donc on sait pas y a qui dedans, tu peux être un homme, on sait pas, tu vois.
Ouais.
Et bah là, à ce moment-là, je me balade avec ça, et je vois, y a un autre mec qui est habillé comme moi, il me voit de l'autre côté, il me dit, bah attends, mais il travaille pas ici, lui, après il dit, hey, monsieur, il commence à me courser et tout. la difficulté, bah elle est mal dosée. Parce que moi, j'ai fait le jeu, donc, comme je vous l'ai dit, pour tenir le rang d'assassin silencieux, en faisant pas repérer, etc. Des fois, j'ai été obligé de recommencer plusieurs fois parce que...
Mais encore une fois, toi, ça te dérange pas que ça soit difficile. Ce qui te dérange, c'est que ce soit difficile parce que c'est mal branlé au niveau de tout ce qui est costume, etc. quoi.
Voilà.
Quand t'as pas de casque, effectivement, etc., c'est pas gênant. Mais effectivement, si tu te fais repérer alors que a priori, les mecs, il y a aucune raison pour qu'ils te reconnaissent, c'est un peu chaud, quoi.
C'est sûr. Et surtout que, bah, des fois, au bout d'un moment, je pétais un câble quand je me suis repéré comme ça gratuitement. Et donc je faisais quoi, bah je sortais mes armes, ça me saoulait, donc j'y allais comme un bourrin. Après bien sûr je rechargeais ma partie.
Bah justement, puisque t'as pu défouler, la partie bourrin, t'en penses quoi? C'est du TPS très basique sans intérêt, ou il y a quand même un intérêt?
Pour moi franchement c'est du TPS basique sans intérêt. Hitman, c'est pas qui renvoie. Faut arrêter, faut déconner.
Ouais.
Moi j'ai le système là, je l'ai fait comme ça juste pour me soulager. Et d'ailleurs ce que je faisais aussi dans les anciens Hitman. Le chose qui a changé par rapport aux anciens Hitman, qui est bien, cette fois-ci, c'est que, avant dans Hitman, tu te faisais repérer, hop, t'étais mort. Alors que là, tu te repérais dans un coin, discrètement, dans une ruelle, etc. Si t'élimines le mec, tu vas perdre un peu de points de score. C'est vrai, par rapport à ta mission de l'assassin silencieux. Mais, s'il n'y a pas de garde dans les environs que personne n'a entendu, bah, tu seras pas repéré. Parce qu'avant, dès que tu faisais repérer, c'était mort. Et là, maintenant, tu vas éliminer le mec, discrètement. S'il y avait des gars qui ont entendu la bagarre, tu peux cacher le corps ou bien te sauver sans qu'ils te repèrent. Mais si tu l'as éliminé sans que personne te voie et tout ça, et il y a que lui qui t'a vu, et ben ça fera comme si de rien n'était, quoi. Et ça, c'est bien par rapport aux anciens Hitman. Alors qu'avant, dans les anciens, ton costume était cramé directement dans tout le niveau, sans logique, quoi.
Ok. Donc, globalement, ce nouveau Hitman, t'as été satisfait ou y a quand même les défauts qu'on a évoqués, là, tu les trouves assez rédhibitoires?
Franchement, j'ai grave kiffé le jeu.
Mmh.
Je trouve plutôt bon. Bon, il y a pas mal de choses qui ont changé, comme on a pu le voir. Et ça reste un Hitman si tu te forces à jouer en mode de difficulté et en enlevant tous les trucs assistés. Parce que là, franchement, voilà. Si tu, le fait que tu peux jouer comme un bourrin, si les gens font ça, c'est qu'ils ont rien compris à Hitman. Mais bon, après, c'est pas de leur faute, c'est les développeurs qui autorisent ça dans le jeu. Mais je sais pas si tu peux passer un niveau en butant tout le monde, parce que quand même t'as pas la santé qui se régénère, parce que maintenant t'as des medikits dans le niveau.
Ah oui, parce que bon, ça c'est un truc qui a changé par contre, parce que moi par exemple, moi je l'avais dit durant la Paris Games Week, alors c'était parce que le mode était réglé en facile, mais moi c'était l'homme invincible hein, durant la démo du Paris Games Week hein, tu pouvais canarder, le mec il était incroyable hein.
Ah non, mais en mode difficile tu te manges 3-4 balles, c'est fini hein.
Ok, d'accord, donc ça c'est bien,
c'est pour ça que l'infiltration est toujours privilégiée dans ce mode là Et franchement, c'est un bon Hitman. Bon, le scénario, j'en ai pas parlé, mais Daniel Boruchowski, l'ancienne personne qui s'occupait des contrats de Hitman pour l'agent 47, a trahi l'agence, en fait. Et l'agence te demande de l'éliminer.
Ouais, ça, c'est la première mission qui était dispo par Games Week, je précise.
Il va donc pour l'éliminer, etc. On sent à ce moment-là que Code 47 a des petits remords, il essaie de lui donner un petit peu de... d'humanité.
C'était un peu kitsch hein, quand même, je vous cache pas que voilà quoi. C'est ça, ouais, en 2 secondes, tu vois, t'es 47, le mec qui a toujours été froid, qui a jamais éprouvé une émotion, ah tiens là, hop. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Mais...
la fin est trop vite bâclée. La dernière cinématique, on dirait ils l'ont fait, allez hop, on met ça en 2-3 secondes, c'est fini. Alors que ils auraient pu faire un bon truc, tu vois. Par exemple, ceux qui ont fini Hitman Blood Money se rappelleront certainement de la mission Requiem, qui est juste excellente comme fin, comme finale, parce que c'est, il y a le générique de fin et tu as les, tu peux jouer en fait sur le générique de fin et c'est, et ça t'apporte, c'est finalement la vraie fin du jeu. Et elle est, franchement, si vous n'avez pas joué, essayez de regarder sur internet si vous pouvez, elle est magnifique. Mais là, c'est, je trouvais que c'était trop vite expédié la fin, quoi. Un peu, la fin avec aussi comment je veux sur la soupe, quoi, comme le début, en fait, j'ai envie de dire. Et voilà. Mais franchement, c'est un bon jeu. Il y a aussi le mode Contracts que je vais parler vite fait parce que je m'éternise un petit peu sur ce Hitman. Le mode Contracts, en fait, c'est, qu'est-ce que c'est? C'est Square Enix qui a proposé un, grosso modo, un mode multijoueur dans le jeu Hitman. Mais à sa façon. Parce que c'est pas un multijoueur où vous allez vous rencontrer, vous tirez dessus. C'est un mode de jeu où tu vas rejouer les missions du mode, solo. Tu vas faire les mêmes choses, sauf que tu vas pouvoir désigner une cible à tuer.
Alors attends, de ce que j'ai bien compris, en gros, il y a deux joueurs.
Non, il y a en fait, t'es tout seul.
Ah, t'es tout seul.
Tu vas faire la mission tout seul.
Parce que tu lui as dit que c'était un mode multi au début, donc c'est pour ça que je comprenais pas.
C'est pas un mode multijoueur, en fait, à proprement parler, tu vas comprendre pourquoi. Je vais faire le niveau de Chinatown. Je voudrais tuer un cuisinier avec un habit de SWAT. Et je le tuerai, par exemple, avec... je l'empoisonnerai, le cuisinier. Je fais ça, je me barre, je finis ma mission. Et je vais proposer ma mission, en fait, à faire. Donc, la personne qui voudra faire mon contrat... Il faudra qu'il tue le cuisinier de la même façon que je l'ai tué moi-même dans le temps imparti. Par contre, dans chaque niveau, si par exemple je veux tuer un cuisinier, il faudra tuer ce cuisinier-là parce qu'ils ont tous un nom. Tu pourras pas aller dans le niveau tuer n'importe quel cuisinier, tu vois. Donc pour un cuisinier, tu dis c'est facile. Mais quand c'est des mecs d'un groupe de SWAT qui se battent par quatre, ça commence à devenir plus chaud quand même. Vous connaissez donc dans les modes multijoueurs un éditeur de map, un éditeur de niveau, etc. Bah là, c'est un éditeur d'assassinat, tout simplement.
Ouais, bon, c'est pas un mode multijoueur. Enfin, en gros, c'est un mode pour proposer du contenu à la communauté, mais c'est pas un mode multijoueur, fondamentalement.
C'est pour ça que je te dis que c'est la tentative d'apporter un mode multijoueur à un jeu d'infiltration, qui est Hitman. Mm. Et donc, pourquoi je dis que c'est un mode multijoueur? Parce que vous avez le système de scoring.
Oui, mais, ça, faut aller chercher loin. C'est pas parce que t'as du scoring que c'est multi, quoi. Enfin,
Je t'ai pas dit que c'était un mode multijoueur. C'est un simili multijoueur, quoi. Tu proposes des assassinats et l'autre, il devrait faire mieux que toi. Bah, c'est sympa, ça apporte un petit plus, mais c'est pas très très folichon, quoi. Non.
Ok. Bon, globalement, donc, pour résumer, c'est toujours un jeu d'infiltration, même s'il y a de l'action. Et de toute façon, le côté action, a priori, n'est pas intéressant. Donc, si vous voulez vraiment profiter du jeu, mettez-le en difficulté maximum. Enfin, en tout cas, en mode difficile, déjà. Et essayez d'éviter au maximum d'utiliser le mode instinct. Voilà. Et, basiquement, et en tout cas, c'est un vrai Hitman.
Et autre point positif pour le jeu, bah, c'est le Hitman le plus long qu'on ait vu par rapport aux anciens épisodes. Parce que les anciens, ils étaient assez courts quand même. T'avais 11 missions, c'était fini. Alors que là, c'est franchement, l'aventure a duré sur entre 20 et 25 heures quand même. Et c'est assez surprenant pour Hitman. Je m'attendais vraiment à un jeu un peu moins long. Et franchement, c'est vraiment du gros lourd. Et il y a une chose qui a disparu qui m'attriste un petit peu. Mais bon, maintenant, c'est parce que c'est plus pareil. C'est les journaux qu'on avait à la fin d'un assassinat. Comment on a tué notre victime, si des témoins nous ont vus, etc. Et on n'a plus ça. Donc, j'aurais bien aimé avoir ça de nouveau, en fait.
Ok. Bon, allez, c'est terminé pour le jeu du moment. On va passer au point culture. Et le point culture, c'est un manga qui s'appelle Desert Punk. ボインが二つ大きいボインもう一つ風に揺れるカッパおっと日傘を忘れちゃなんで奴の腹は真っ黒さウィンチェスター持たせたらシンガポーズ今日も走る砂漠の中に
いろんな仕事を押し付け チャンをゲットするまで命をかけて突っ走る突っ走る
C'est un manga écrit et illustré par Usume Masatoshi. C'est un manga post-apocalyptique qui se déroule au Japon, n'est-ce pas ? Et plus précisément dans la région de Kanto. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous en parler ? Eh bien, tout simplement, moi ce que j'ai énormément apprécié dans ce manga, c'est que, en fait, c'est un manga où à peu près tout le monde est un connard, en fait. C'est-à-dire que le héros est un anti-héros, on est vraiment dans un monde post-apo où chacun ne pense qu'à sa gueule, et en gros, il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre. Et en plus, quand je dis que le héros est vraiment un anti-héros, mais dans tous les sens du terme, qui vraiment il est pas grand du tout, il est même plutôt petit, il a une sale gueule, en plus de ça... c'est le mec qui, clairement, s'il pouvait vendre sa mère pour se faire des sous, il le ferait, y a aucun souci. C'est le mec, ses amis d'enfance, il leur fait les pires coups de pute que tu puisses imaginer. Si ça peut y servir, il y a aucun problème. En plus, ce personnage-là, donc, c'est un mercenaire, en fait. Et donc, on va suivre ses pérégrinations dans le monde post-apocalyptique de la région de Kanto. Alors, pourquoi ce manga est très intéressant en plus ? Parce que le héros a beau être un gros connard, c'est un gros connard intelligent en fait. C'est-à-dire que le mec c'est une espèce de gros manipulateur. À chaque fois qu'il va avoir un intérêt dans un truc, va se démerder pour tirer son épingle du jeu, même s'il doit faire une grosse saleté, il le fera. Et voilà. Franchement, si vous aimez des mangas qui proposent des univers un peu sombres, mais drôles en même temps, parce que c'est un manga avec un univers un peu particulier, enfin au niveau de l'humour, genre le principal rival du héros, c'est un mec au début tu crois qu'il est super classe et tout, mais en fait c'est un gros exhibitionniste. Y a une nana dans le manga que le personnage principal aimerait bien se faire. Le problème c'est qu'elle est à peu près aussi maligne que lui, si ce n'est plus, c'est que à chaque fois il se fait avoir, il se fait manipuler, mais dans tous les sens. C'est un manga très sympa, qui est super drôle. Alors par contre il a un problème, c'est que on va dire que ce manga il existe depuis 1997. On en est au Japon à 14 volumes, et vous l'aurez compris, l'espacement entre les volumes est assez long, quoi, on va dire. Notamment là, à une époque, l'auteur a fait une pause de 2 ans, je crois, ou un truc comme ça. C'est un peu comme Evangelion, quoi, pour ceux qui connaissent. L'auteur met un peu 3 ponts, on va sortir ses volumes. Alors en plus, il y a un autre souci, c'est que l'éditeur en France, qui est Glénat, donc, on sait pas si on aura la suite un jour, parce qu'ils sont arrêtés au 12 ou au 13e volume, et que apparemment, moi en tout cas la dernière fois que j'avais vérifié ça, ils avaient pas l'intention de sortir la suite, hein, donc c'était un petit peu la merde, quoi. Alors après, bon, c'est pas très gênant, parce que si vous voulez, c'est pas un manga que vous allez lire pour son scénario, parce que bon, en gros, vous allez suivre l'ascension de Tsunabozu, mais parce que on va dire qu'il va passer du stade de connard à connard moyen, à connard plus et à super connard qui va avoir du pouvoir en fait. Mais bon, clairement c'est un manga que tu suis pour l'humour, pour les combats aussi qui ont quand même pas mal la classe et c'est assez intéressant. ATH, est-ce que tu as des questions, parce que je crois que tu as regardé un peu un extrait de l'anime, ça avait l'air de t'intéresser, donc
En fait j'ai regardé un épisode en entier même. Le premier épisode, c'était bien, à part la voix française du personnage principal qui était nulle, mais sinon j'ai trouvé ça assez marrant comme délire, quoi, avec des personnages un petit peu foufou, et surtout que notre héros soit finalement le héros du manga soit un anti-héros, bah clairement j'ai envie de regarder un peu plus pour voir si ça va m'accrocher, mais en tout cas le concept déjà, ce que tu as expliqué, tu rigoles déjà.
Ah oui, non, mais c'est parce que c'est vraiment, c'est pas habituel d'avoir un personnage comme ça en personnage principal d'un manga, quoi. Et même en général, enfin, voilà, le mec, c'est vraiment, hein, une grosse saloperie, quoi. C'est un déchet, le mec, quoi. Il est irrécupérable. Et d'une manière générale, à peu près tous les personnages sont comme ça. Ils se font pas de cadeaux entre eux. Dès qu'ils ont bon. Des fois, ils s'allient entre eux parce que même si c'est des connards, ils ont des intérêts en commun. Donc, évidemment, entre connards, bon, tu vois, si on a des intérêts communs, on essaie de s'arranger un peu, quoi. Faut essayer de faire des efforts des fois. Mais voilà. Après, par contre, il y a un personnage là-dedans qui est peut-être un tout petit peu à part. C'est Kozuna, qui est donc l'apprentie du personnage principal. Alors, elle, si vous voulez, elle est pas forcément plus sympathique que le héros, enfin que le personnage principal. Mais on va dire que déjà il y a une relation qui se crée avec ce personnage-là qui est assez bizarre, hein, parce que enfin on va dire que le personnage principal c'est un peu un gros obsédé sexuel, mais en fait si tu veux il a pris comme apprenti parce qu'il s'est dit que bon ok là c'est une enfant, mais dans 10 ans quand il sera adulte ça pourrait être intéressant, tu vois. Tu vois le mec qui a une mentalité mais vraiment super tordue, quoi. Et le truc c'est que Kozuna c'est un peu un... Déjà, elle est très maligne, et en plus, c'est peut-être le personnage le plus équilibré mentalement de la série, quoi. Je vais pas dire qu'elle est gentille, parce que elle pense aussi à ses intérêts, mais c'est la plus réfléchie d'entre tous, et c'est celle qui pense peut-être le plus à l'intérêt général, quoi, on va dire.
Est-ce qu'il y aura vraiment, il y aura une fin un jour ou pas? Parce que 14 volumes depuis 97, ça fait quoi? Ça fait presque un volume par an. J'ai envie de dire, le mec, il prend son temps, quoi.
Ouais, mais enfin, moi c'est vraiment même pas ça qui m'inquiète, quoi. Le problème, c'est que même admettons que la série se finisse au Japon, on n'a aucune, mais alors vraiment aucune garantie que Glénat reprenne un jour la publication, quoi. Et c'est ça le problème. Et à ma connaissance, il n'y a pas de groupe de Scantrad qui s'occupe de cette série parce que bon, on va dire qu'elle est pas très connue chez les jeunes parce que ça date quand même de 1997, hein, cette histoire, hein, donc ça remonte à loin. Mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est vraiment qu'on n'ait jamais la fin. Bon, après, encore une fois, moi, ça ne me dérange pas forcément parce que moi, je suis cette série pour l'humour, pour la baston. Après, le scénar, bon, il y a des histoires de complot, etc. Mais franchement, c'est très très secondaire, quoi. Tu suis pas le manga pour ça. Tu files le manga parce que c'est des grosses putes et que à chaque fois t'es scié par les coups tordus qui se font entre eux, quoi.
Mais on va devenir spécialiste des séries qui se finissent plus, quoi. Avec Mandraine.
Surtout que alors si pour le coup si Mordred est spécialiste des séries télévisées qui se finissent plus, moi je suis spécialiste des mangas qui se finissent pas. Hein. Dans ma collègue j'ai Evangelion, j'ai Bastard, enfin bref, ça c'est que des séries où tu te demandes si un jour il y aura la fin. Bref, dans tous les cas, si vous aimez le post-apo et les mangas avec des personnages totalement détestables, parce que alors très clairement, si vous n'aimez pas les mangas où vous avez où le personnage est une grosse pourriture, mais ne lisez même pas, hein, parce que Desert Punk, ce n'est pratiquement que ça. Ce n'est pratiquement que des grosses putasses qui se font des gros coups de bâtard dans le dos. Ce n'est que ça, c'est vraiment des déchets humains, quoi. Et moi j'adore ça parce que ça me fait marrer mais comme pas possible, d'autant plus que voilà y a quand même un humour derrière, mais ça ne plaira clairement pas à tout le monde, hein. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là, écoute. Je vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine parce que on a eu une information de dernière minute là. Apparemment, Morden est rentré chez lui en France, mais il n'a pas de connexion Internet et il se trouve que ATH ne sera pas disponible la semaine prochaine non plus. Donc, je ne sais pas si je trouverai un sparring partner pour la semaine prochaine. Donc, je ne vous garantis pas qu'il y aura un podcast la semaine prochaine. Peut-être qu'on fera une pause et je ne sais pas quand on reprendra les podcasts. On vous tient au courant. Quoi qu'il arrive, les podcasts reprendront en janvier, ça c'est clair. Donc voilà. Bye bye!
Salut à tous!